Don Quichotte, le chef-d'œuvre de Cervantes, sera le spectacle présenté par la compagnie du théâtre Phébus pour le prochain festival de Gavarnie qui aura lieu du 25 juillet au 6 août prochain. Cette année, la mise en scène est confiée à Frédéric Garcès qui a participé en tant que comédien aux récentes éditions du festival. La direction artistique est toujours assurée par Bruno Spietzer, responsable de la compagnie du théâtre Phébus. Le festival de Gavarnie est chaque année un émerveillement pour les milliers de personnes qui convergent vers ce site patrimoine de l'UNESCO afin d'y découvrir des spectacles de qualité exceptionnels en plein air. Dans ce reportage de Jean-François Courtille, Frédéric Garcès détaille la manière dont il a souhaité mettre en scène l'histoire de Don Quichotte.
Ce qui m'a séduit dans l'œuvre, c'est qu'à la base, voilà, Bruno Spiesser me donne la parole. En mettant en scène un spectacle à Gavarnie. Donc cette prise de parole, je me suis dit là, quelle parole je veux prendre. J'avais pas envie de raconter n'importe quoi, c'est une responsabilité que je respecte infiniment, que ce soit pour le festival, pour les spectateurs, pour le Phébus, et évidemment pour moi-même. En tant qu'artiste, c'est vrai que la meilleure mission qu'on puisse ressentir, c'est cette notion de transmission. On est des passeurs. On raconte des histoires, certes, mais on rappelle un petit peu aussi les questions oubliées. On est les témoins de notre époque. On est aussi en charge de rappeler la mémoire des autres époques aussi. On crée des liens. Et ces liens, ils se situent sur quoi ? En traversant le paysage théâtral depuis des siècles, on raconte, il y a énormément de thématiques, mais ce qui revient, enfin, à mon sens, énormément, c'est toujours cette force insoupçonnée de se relever. On échoue en permanence, mais on se relève et on tâche de se dépasser, que ce soit émouvant, que ce soit cruel, que ce soit caricatural. Mais en tout cas, il y a cette volonté de se relever. Et à travers cette thématique-là, c'est Don Quichotte, on est la meilleure image. C'est un homme qui est décrit évidemment comme un maladroit, comme un fou, d'une notion burlesque, mais à la fois énormément touchante, qui raconte autant de choses, oui, caricaturales que émouvantes, et à la fois il y a une dimension universelle. Donc Quichotte, c'est pas simplement une représentation de l'Espagne, c'est une représentation du monde, déjà, à mon sens, dans les personnages qu'il croise, ça peut aller jusqu'en Arabie, ça peut aller jusqu'en France, et ça va même beaucoup plus loin. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, il y a vraiment une mixité culturelle dans cette œuvre que j'ai envie aussi dont j'ai envie de me servir pour être à la hauteur aussi de cet espace qui est le site de la Courade à Gavarnie. C'est un monde ouvert, les comédiens vont être très sollicités au niveau de leur endurance, c'est-à-dire que ça sera très actif autant derrière le plateau que devant. Donc c'est quelque chose que je veux très dynamique et à la fois très coloré, que ce soit dans les lumières de Laurent Aranda, dans les costumes de Véronique Strub et Dorothée Laurent, ou dans la prise de l'espace du spectacle et puis le spectacle lui-même dans son écriture.
On se demande toujours si Don Quichotte est fou. Comment est-ce que vous abordez cette caractéristique du personnage ? Est-ce que pour vous il est fou ? Est-ce que c'est plutôt un audacieux ?
Non, c'est plus un audacieux pour moi. Le thème de la folie, c'est un thème qui me fascine depuis très longtemps, puisque je l'avais déjà traité un petit peu dans le journal d'un fou il y a quelques années, en 2012. Et c'est très étrange parce que la folie, c'est relatif à chacun. Il ne faut pas la minimiser, justement, c'est beaucoup plus profond que ça. La folie, en ce qui concerne Don Quichotte, pour moi, oui, on peut le voir fou, mais selon quels critères ? Moi, je le vois comme un audacieux, c'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, décide d'arrêter de rêver sa vie, de la sublimer, d'être esclave un petit peu de ce qu'il s'impose à lui-même aussi, parce qu'il s'enferme pendant des années dans la lecture de romans de chevalerie, donc il s'étourdit lui-même, c'est ce qui en fait peut-être aussi sa maladresse, mais aussi d'une pression sociale qui était déjà là à l'époque et qui traverse les temps jusqu'à aujourd'hui encore. Donc voilà, cette audace, c'est prendre en main sa vie, c'est quitte à passer pour un fou aux yeux des autres, c'est aller au bout de ce qu'on estime juste pour soi-même. Parce que tout part de soi, avant de vouloir, je pense, améliorer ce qu'il y a autour de nous, ça commence par tout commence par soi. Et je crois que peut-être indirectement, Don Quichotte à sa façon à lui, avec l'énergie, avec la vision de Cervantes, part de ce principe-là. Voilà, parce qu'avant de vouloir être au service des autres, il faut d'abord être au service de soi. Parce que voilà, c'est l'erreur que commet Don Quichotte au début. Hein. Il va vouloir sauver tout le monde alors que tout le monde n'a pas besoin d'être sauvé ou ne peut pas être sauvé. Mais qui le sauvera de lui-même aussi? Donc il y a une véritable dimension humaine et personnelle où je pense que chacun peut y découvrir son propre Don Quichotte.
Vous avez eu des difficultés pour trouver l'habillage musical de ce spectacle. À qui avez-vous fait appel finalement?
Donc j'ai fait appel à Vincent Mingueux qui a été régisseur son à Gavarnie en 2014 pour Le Songe Nuit d'été et dont on m'a rappelé le travail musical lorsque j'étais un petit peu en quête d'identité sonore pour le spectacle. Et son univers à lui m'a vraiment charmé parce qu'il correspondait vraiment à cette notion épique que je recherche dans ce spectacle, que même si j'ai trouvé des musiques absolument fabuleuses, ne correspondait pas à la respiration que j'espérais pour ce spectacle-là. Et Vincent, dans son travail, a vraiment réussi à dynamiser et apporter la couleur que je cherchais pour cette œuvre.
Vous évoquez la dimension européenne, voire universelle de l'œuvre de Don Quichotte et justement vous avez cherché à cristalliser cela autour du personnage de Dulciné.
Oui, alors Dulciné c'est une image assez particulière. Dans le premier tome, c'est ce qui le motive à partir. Voilà, il devient chevalier. Quand on est chevalier, il faut un cheval. Quand on a un cheval, on part à l'aventure, mais vers où est-ce qu'on va ? Ah ben, il faut aller sauver, il faut aller vivre l'aventure pour mériter l'amour de celle qu'on aime. Mais qui il aime et qui l'aime à lui. Donc il invente aussi cette image féminine qu'il sacralise énormément. Cette image, on l'oublie au fur et à mesure un petit peu du premier tome parce qu'il y a beaucoup d'autres personnages qui prennent le relais. Mais dans le deuxième tome, en fait, Cervantes revient vraiment à l'essentiel parce qu'on sent vraiment qu'il a besoin de conclure son œuvre, son histoire, puisqu'elle a été un peu plagiée entre le premier tome et le deuxième tome. Et justement, sa façon en lui de porter plainte, entre guillemets, c'est de rétablir la justice avec sa plume, dans son art. Et là, l'image de Dulciné devient plus évidente. On comprend vraiment qu'elle n'existe pas. On se demande même s'il va la trouver. Même Sancho ne comprend pas et essaie lui-même de lui créer une Dulciné en se servant de la propre folie, entre guillemets, de Don Quichotte. Et ça lui coûtera beaucoup de choses aussi. Mais l'image de Dulciné, à mon sens, si j'en reviens à la notion de vie et de mort, c'est que voilà, Don Quichotte prend les armes pour affronter la vie. Il est vieux, il est malade. Consciemment ou inconsciemment, est-ce qu'il sait qu'il va vers sa mort ? Mais en tout cas, l'image du ciné, pour moi, est une sorte d'allégorie de la mort. C'est la fin du voyage, c'est le bout du chemin, et qui l'accueillera au moment voulu, qui l'accueillera tendrement.
Vous évoquez cela avec une danseuse qui utilise une chorégraphie inspirée de la civilisation indienne.
Oui, alors Corinne Matou, qui est une artiste locale, a vécu pas mal d'années en Inde et donc est spécialisée dans la danse indienne. Et je trouvais ça très intéressant. J'ai rencontré beaucoup de danseuses qui étaient spécialisées dans le flamenco et qui étaient toutes très talentueuses. Mais ce qui m'a saisi chez Corinne, c'est qu'effectivement, la danse indienne est un lointain ancêtre du flamenco. Et cette volonté justement d'ouvrir un petit peu, de casser les frontières et d'élargir les horizons, c'était justement de pouvoir trouver des mélanges, une mixité dans les cultures, donc de mélanger à la fois des mouvements espagnols mêlés à des mouvements plus de danse indienne, etc., etc. Donc ça crée vraiment une palette de couleurs qui est beaucoup plus saisissante, intéressante et qui donne beaucoup plus de liberté et de respiration au spectacle.
Don Quichotte, cette année en particulier, quelle résonance peut-il avoir selon vous avec ce que nous vivons, ce que vit notre époque contemporaine ?
Alors, ce qui est très étrange, c'est que j'ai élaboré le projet entre janvier et juin 2018. Et lorsque j'étais en tournée pour notre spectacle en fin d'année 2018, là où tout a commencé au niveau des mouvements sociaux avec les gilets jaunes, forcément j'ai eu une réflexion, une énergie qui m'a motivé à défendre encore plus ce projet et qui me pousse à être encore plus responsable dans le message que je veux transmettre, qui est ce message vraiment de courage, de réveiller vraiment le Don Quichotte qui est en nous, de prendre sa lance et d'aller vers ces moulins à vent, ces moulins à paroles qui brassent du vent, et de se libérer du joug de ces géants industriels.
Voilà, à l'instant, c'était Frédéric Garcès qui a mis en scène ce spectacle de Don Quichotte. Bruno Spietzer, de son côté, présente les nombreuses initiatives artistiques organisées en amont du festival autour de l'univers de Cervantes.
On a voulu vraiment décliner le spectacle et sensibiliser toutes les générations de public qui viennent nous voir, réfléchir sur le thème chaque année. Alors cette année, c'est Don Quichotte. Donc on a travaillé aussi sur une adaptation sur Don Quichotte pour les enfants. Ce qui n'est pas toujours facile, Don Quichotte pour les enfants, hein, ce n'est pas vraiment un thème qu'ils travaillent, puisque c'est un roman difficile à lire, difficile à ressentir. Et donc nous, on a voulu travailler aussi avec les enfants. Alors j'ai travaillé avec une autre comédienne. Donc on a écrit complètement l'adaptation pour les enfants, un spectacle de 45 minutes autour d'une chambre d'enfants. Voilà, ça se passe dans une chambre d'enfants avec une dévoreuse de livres, quelqu'un qui vient découvrir des livres dans les chambres d'enfants, même les voler, les dérober, etc. Mais qui, en ouvrant un vieux livre, tombe évidemment sur le gardien de ce livre qui n'est autre que Don Quichotte qui sort du livre, comme notre imaginaire qui travaille quand on lit des livres. Voilà, le personnage principal sort du livre et vient se confronter à ce personnage qu'il prend pour Sancho. Donc voilà. Mais on est dans une chambre d'enfant. Donc tout ce qui va arriver de cette chambre d'enfant, habillé Don Quichotte, seront évidemment des accessoires qui sont dans la chambre d'enfant. Donc on a voulu vraiment trouver une façon de l'amener, donc assez burlesque. Et les enfants ont beaucoup participé à ce spectacle, avec un débat avec eux ensuite après le spectacle. Donc on a joué 8 fois le spectacle autour du mois de mai. Et ensuite, il sera rejoué encore autour de Pau, dans la région paloise aussi. Et aura une suite, puisque ce spectacle-là, il y a un avant, il y a un après Gavarnie. Donc ce spectacle-là tournera aussi ensuite à la rentrée dans différentes écoles, évidemment, du département.
Vous avez voulu insister aussi sur les arts plastiques. Il y a une exposition qui va être proposée en amont et il y aura même du land art.
Oui, voilà. Alors peut-être le land art, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai qu'on a voulu. On s'y est pris un peu tard. Malgré tout, pour ça, c'était pas facile de trouver des artistes. Donc, on a voulu une exposition qui va se passer au conservatoire, qui n'est pas une salle d'exposition à proprement parler, au conservatoire de musique de Tarbes. C'est grâce à Alain Perpétue, justement, que nous pouvons avoir donc ce lieu où il va y avoir donc 2 artistes, Marcel Nino Pajot, qui est un peintre, un autodidacte, qui travaille, qui a 75 ans. Et qui 74 ans exactement, et qui travaille évidemment sur Don Quichotte depuis de longues années à partir de dessins. Et donc il a trouvé toute une théâtralité sur le personnage, complètement libéré. Donc voilà, ça va être très intéressant d'apprécier ses œuvres, mais aussi Claude Brugeil, qui est plus connu dans la région, qui est un artiste aussi plasticien, qui travaille beaucoup avec du matériel de récupération, qui a travaillé sur des grands murs, des fresques, etc. Il y avait aussi des peintures, et là qui va donc faire. Il a retrouvé 3 œuvres parce qu'il les a tous vendues. Ces œuvres, évidemment, de grandes sculptures, 3 œuvres qui vont être exposées aussi au conservatoire. Et ensuite, il fera une résidence à Gavarnie pendant 10 jours, du 10 au 20 juillet, où il va créer une œuvre. Voilà, un Don Quichotte qui restera ensuite à Gavarnie et qui sera exposé dans la nature. Voilà, certainement à la sortie du village de Gavarnie, en allant vers le site de la Courade, donc les gens pourront apprécier, évidemment tous les gens qui viendront voir le spectacle pourront apprécier cette œuvre. On ne sait pas combien on va la laisser, mais elle restera certainement un mois, 2 mois et peut-être toute l'année. On va voir, peut-être l'usure du temps va faire que cette œuvre va se patiner, etc. Une œuvre de 2-3 mètres d'eau, enfin je ne sais pas encore comment il va préparer son œuvre. Donc voilà, nous on attend avec impatience ce travail avec Claude Brugeil aussi.
Évidemment, une des grandes traditions du festival de Gavarnie chaque année, c'est la lecture théâtrale qui est proposée au début du mois de juillet.
Oui, la lecture théâtrale, c'est important. J'ai fait des lectures en amont avec Frédéric Garcias. On a fait des lectures de l'œuvre de Don Quichotte. Pour nous, c'était important. J'ai enregistré des extraits de Don Quichotte à la radio Fréquence à Luz aussi. Et on a évidemment besoin de parler du spectacle, de la préparation de ce spectacle. Donc on a deux rendez-vous, les rendez-vous d'altitude, où là, on se partage avec d'autres festivals, avec Cotteret, les balades circassiennes, avec Jazz à Luz, bien sûr. Donc on se retrouve le dimanche 16 juin, donc à Saint-Savin, magnifique lieu, pour présenter un peu tout notre travail et ce qui va se passer. Ça va démarrer par Jazz à Luz et ensuite les autres festivals. Voilà. Et puis un rendez-vous aussi artistique à la Maison de la Vallée de Luz, qui est quand même notre partenaire avec qui on travaille depuis de longues années. Et ça sera le mercredi 3 juillet avec évidemment les comédiens. En tout cas, je pense que Franck Sorel, le comédien qui joue Don Quichotte, sera présent avec celui qui joue de Sancho Panza. Ils vont faire un petit extrait ou une lecture théâtralisée évidemment de l'adaptation de Frédéric Garcès, le metteur en scène.
Alors pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le Festival du Gavarnie, il faut peut-être rappeler les conditions dans lesquelles se passe le festival, c'est-à-dire cette marche d'approche dans la montagne et le lieu où se déroule le spectacle.
Oui, c'est un festival assez unique, évidemment, un festival d'altitude qui tutoie entre le ciel et la terre. On essayait de trouver des termes, pour nous c'était important, cette magie de se retrouver en pleine nature. Je pense que les gens aussi aiment ce festival à cause de ça, voilà, de communier avec la nature le soir, de se rafraîchir quand on a un été un peu chaud. Et la cerise sur le gâteau, c'est le spectacle en lui-même. Les gens évidemment font de la route, souvent ils viennent de Pau, de Toulouse, etc. Ils laissent leur voiture dans le village de Gavarnie et ensuite montent à pied, une marche pédestre qui dure environ entre 20 minutes et une demi-heure, parce qu'on peut prendre le temps aussi d'apprécier évidemment l'environnement magnifique. On a des panneaux aussi du texte de Victor Hugo qui décrit le cirque de Gavarnie. On a voulu aussi ça sur le chemin pour apprécier certains mots aussi, et puis se remplir un peu de cette nature avant d'arriver sur le plateau de la Courade. On est sur la partie inférieure cette année du plateau de la Courade. Chaque année, on alterne évidemment l'emplacement du spectacle. Voilà, le spectacle, l'ouverture du lieu pour le public, c'est à 19h. Le spectacle démarre pas avec la nuit, mais la nuit arrive assez vite, à partir de 21h, voilà, pour le spectacle.
Alors un mot aussi sur toute l'équipe d'organisation, il y a à la fois tous les techniciens et puis aussi des bénévoles qui organisent notamment la descente au flambeau.
Oui, c'est ça, on est une équipe d'environ 50 personnes pour le festival. Voilà, environ 30 personnes évidemment pour tout ce qui est artistique et technique. Les régisseurs sont lumière, le directeur Sylvain Dubin, le directeur évidemment technique du festival. On n'en parle peut-être pas assez, mais ce sont des postes très importants. Annelise Blin, évidemment, l'administratrice qui fait un travail remarquable toute l'année sur le festival, et puis toute cette équipe évidemment de bénévoles qu'on en cherche encore aujourd'hui. On n'a que 7 bénévoles et il nous en faut évidemment 7 de plus qui encadrent évidemment le festival, qui s'occupent du public, qui s'occupent de la billetterie, qui s'occupent d'accueillir évidemment tous les gens qui viennent sur le plateau de la Courade. C'est important. On a même la protection civile qui est là, donc voilà, pour encadrer les gens au niveau santé aussi. Donc ça, c'est important. Quand on a 2000 places assises pour le spectacle. Donc voilà, et les gens réservent, parce que maintenant il y a un système de réservation qui se fait très bien, les billets sont datés, donc les gens ont l'habitude de prendre leurs billets en amont.
Cette année, c'est donc Don Quichotte qui est proposé pour le spectacle du Festival de Gavarnie, mais vous avez déjà une idée précise de ce qui se profile pour 2020.
Oui, c'est important d'anticiper les choses, parce que les personnes avec qui je vais travailler ont besoin de se préparer, ont besoin de réfléchir à ce qu'ils vont faire, etc. Donc l'an prochain, ce sera Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, un magnifique roman de la littérature enfantine, à l'égal de Pinocchio ou de Petit Prince ou de Peter Pan, etc. Donc un grand roman universel aussi à adapter pour tout le monde, bien sûr, pas simplement pour les enfants, mais aussi pour tout public, parce que c'est retrouver son enfance ou une enfance vue par les yeux des adultes. Donc de l'image aussi à créer dans ce lieu magnifique. Certainement une intégration plus peut-être dans la nature par rapport à Alice au Pays des Merveilles, on verra. On n'en est pas encore là. Céline Texier-Cholet sera la metteur en scène donc de ce spectacle, une metteur en scène donc du Sud-Ouest qui travaille déjà sur son projet. Voilà. Et puis on a d'autres thèmes qui nous viennent, voilà. Mais il faut pouvoir trouver les personnes en amont, bien en amont. Ça va trouver les bonnes personnes pour différents thèmes qui nous tiennent à cœur, qui n'ont jamais été encore montés à Gavarnie, bien sûr.
Voilà, à l'instant, c'était Bruno Spietzer à la direction artistique de ce festival de Gavarnie. Et ce reportage, nous le devons à Jean-François Courtis, notre correspondant sur Tarbes.